Notre Dieu, merci. Merci parce que tu nous donnes les souffles de vie. Tu fais grâce de nous retrouver autour de cette table pour méditer ta parole. Ta parole est pour nous la vie. Voilà pourquoi nous pouvons tout abandonner et nous tourner vers cette méditation, Seigneur. Nous sommes les bienheureux sur cette terre des hommes d'avoir compris l'importance de ta parole. Nous nous recommandons à ta grâce pour que tu nous guides du début jusqu'à la fin. Que tu nous parles, Seigneur. Tu as parlé à ton serviteur Jean dans cette vision sur l'île de Patmos il y a des milliers d'années aujourd'hui. Mais nous, en tant que ton Église, nous en avons besoin. Nous avons besoin de cette parole parce qu'elle nous instruit et nous forme comment nous devons nous comporter dans l'Église. Cher Saint-Esprit, remplis-nous, guide-nous, inspire-nous. Conduis ton serviteur dans la direction de cette réunion. Que toute la gloire revienne à toi. Pas aux hommes, mais à toi qui nous a appelés, à toi qui nous qualifie à te servir. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen.
Amen. Merci, Papa Céline, pour la prière. C'est vraiment, vraiment apprécié. C'est très important que nous nous laissions conduire par le Seigneur. Sa parole n'a pas besoin d'un diplôme universitaire pour qu'on la saisisse. Mais c'est vraiment la révélation de Dieu dont nous avons besoin. C'est par elle que nous pouvons saisir quelque chose. Sœur Luboula, tu vas nous faire la lecture, s'il te plaît, dans Apocalypse, chapitre 3. Nous lisons les 6 premiers versets.
Merci, pasteur. Je lis dans la version Louis II. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a le sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Pendant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera aussi, ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole de l'Éternel.
Amen. Nous bénissons notre Dieu de nous avoir donné sa parole. Et nous le bénissons aussi de nous donner de comprendre l'essence des Écritures. Le verset 6 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un refrain qui revient à chaque lettre, à chaque écrit envoyé aux différentes églises. Et je pense que cette répétition veut nous réveiller, nous montrer que le Seigneur, par son esprit, est en train de parler. Il parle à chaque église, mais nous pouvons tirer des leçons, nous pouvons tirer des renseignements sur ce que le Seigneur dit à chaque église et que cela peut nous concerner, soit individuellement, soit collectivement. Et c'est ce que nous voudrions faire ce soir, parce que, à mon humble avis, Cette épître ici, à l'église de Sardes, je la trouve, elle est la plus extrême en termes de reproches. À ce niveau-là, nous savons, comme on va le voir encore pour d'autres églises, en les lisant, c'est-à-dire les chapitres 2 et 3, de Apocalypse, on se rend vite compte que il y a des églises qui n'ont pas reçu de reproches. Le Seigneur ne les a pas reprochés du tout. C'est le cas de l'église de Smyrne et de Philadelphie, comme on va le voir. L'église de Sardes, que nous voyons aujourd'hui, ainsi que celle de Laodicée, comme on va le voir, ce sont des églises qui ont reçu, qui n'ont pas reçu de louanges du tout. Alors, elles sont sept. Donc, deux n'ont pas reçu de reproches, deux n'ont pas reçu de louanges. Donc, les trois autres, c'est-à-dire celles de Thyatire que nous avons vues hier, Pergame et Éphèse, sont des églises qui ont eu, autant le Seigneur leur donne des louanges, mais aussi il leur présente des reproches. Hein, le cas le plus présent en mémoire, c'est l'église de Thyatire que nous avons vue hier, lorsque le Seigneur dit, je sais ce que tu es, je vois ton travail, ton fidèle service, ta constance, etc., mais j'ai quelque chose contre toi. Donc, c'est l'exemple des églises qui ont reçu les deux choses, la louange et les reproches en même temps. Celle de Sardes, dont nous étudions le contenu de la lettre ce soir, c'est celle qui n'a pas reçu nécessairement des louanges, mais le Seigneur reconnaît quand même qu'il y a au sein de cette église des personnes qui n'ont pas souillé leur robe. Nous allons voir aussi cela ensemble et qu'est-ce que cela peut vouloir dire, qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer à travers cela. La lettre à cette église, en fait, c'est un avertissement que le Seigneur nous lance à nous chrétiens, à vous, à moi, des chrétiens qui ont la réputation d'être vivants, mais qui en réalité, aux yeux du Seigneur, ils sont morts. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de vraie transformation devant le Seigneur. Et le Seigneur nous rappelle à travers eux de faire très attention. Nous allons voir, ça veut dire quoi, cette apparence de vie vis-à-vis du monde, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis d'autres gens. Nous paraissons pour être des chrétiens, mais vis-à-vis de Dieu, lui, il voit que nous sommes morts. Qu'est-ce que cela veut dire? À quoi est-ce que nous pouvons reconnaître quelqu'un qui serait dans ce profil ici? Cette étude très courte, elle est cependant très profonde et très avertissante pour moi, pour chacun de nous, je l'espère. Et c'est pour cela. Nous aimerions en tirer le maximum possible de renseignements tout en nous examinant devant le Seigneur afin que si jamais quelqu'un d'entre nous se retrouvait dans ce cadre ici, dans ce profil, qu'on fasse ce que le verset 3 dit, qu'on retourne vers le Seigneur par la repentance sincère et réelle et le Seigneur nous redonnera la vie. Voilà, frères et sœurs. Ce que nous pouvons dire comme introduction pour cette méditation ce soir. Pour ceux et celles qui nous ont rejoints, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, les six premiers versets. Voilà, nous sommes encore un très petit nombre ce soir. Il y a 9 personnes jusqu'à présent qui sont tous des habitués et qui savent comment prendre la parole et pour combien de temps. Donc 2 minutes maximum, nous pouvons exprimer la pensée. Nous allons y aller verset par verset afin de mieux tirer le maximum possible des renseignements pour notre édification ce soir. Voilà, frères et sœurs, la parole nous est donnée. Nous pouvons partager que le Seigneur nous a mis à cœur. Je vais commencer avec le tout premier verset. Si vous avez remarqué, toute la fois que le Seigneur dit à Jean d'écrire, il va puiser dans la description de sa personne, de son être, qu'on nous a présenté au chapitre 1, lorsque Jean, ayant entendu la voix du Seigneur derrière lui, lui disant d'écrire ce qu'il voit, Jean s'était retourné et il va décrire la personne qui était devant lui. Et c'est chaque fois le Seigneur prend une portion de cette description au début de l'être comme présentation de sa personne, comme introduction, pour montrer que ce qu'il va dire, ce n'est pas Jean qui les dit, ce sont des choses qui viennent du Seigneur et Jean n'est que le canal, le messager par lequel le Seigneur déclare ce qu'il dit. Donc, les vérités qui sont proclamées sont des vérités fondamentales. Hein. Les paroles qui sont déclarées ici, ce sont des vérités que Dieu proclame lui-même de sa propre bouche. Et dans le verset 1, il dit, c'est celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Donc les sept esprits de Dieu, ça représente le Saint-Esprit même. Donc le Seigneur il se présente ici comme étant celui qui a l'Esprit de Dieu. Il ne l'a pas dans le sens où nous disons que nous avons le Saint-Esprit, parce que nous recevons de lui l'Esprit, et c'est l'Esprit de vie. Mais lui, il se présente ici comme étant celui qui donne l'Esprit. Donc, et j'aimerais juste, en introduction, nous signaler que cet esprit-là, c'est l'esprit des vies. C'est en opposition à cette église qui est morte. Le Seigneur se présente comme étant celui qui a l'esprit des vies. Et l'église étant pratiquement décédée, le Seigneur veut lui transmettre la vie par son esprit. Passez-le, Maman Christine, vous avez la parole.
Oui, merci, Papa José, pour la parole. Toujours dans ce premier verset, après s'être présenté comme celui qui a le Saint-Esprit, donc celui qui a en fait la totalité, le chiffre 7 représente la totalité, donc il possède l'Esprit de Dieu en plénitude. Mais ce qu'il va déclarer, celui qui a le cet esprit-là, cette plénitude, c'est que il dit, je connais tes façons d'agir, donc tes œuvres, tes façons d'agir. Mais je sais que tu passes pour avoir de la vie, mais en réalité, tu es mort. Donc, pendant cette période où nous sommes en train de parler, je suis vivant, j'appartiens à une église de réveil. Notre église est une église vivante. Nous entendons souvent ces expressions. Mais en réalité, il faut regarder comment est-ce qu'on vit la vie chrétienne dans ces milieux ou dans la vie personnelle. On peut déclarer au monde qu'on est vivant, mais en soi, on peut être mort tout simplement parce qu'on ne vit pas en conformité de la loi de Dieu. C'est tout simplement une loi d'amour, une loi de pardon, une loi où c'est un signe que le monde doit reconnaître. Le seul signe que le monde peut reconnaître que nous appartenons à Christ, c'est le signe d'amour. C'est le signe de la sanctification, de vivre dans la sainteté. Mais si on se dit, on peut très bien chanter, on peut très bien pécher, on vit dehors de la volonté de Dieu, on est mort, même si on a la prétention d'être vivant ou vivante. Amen.
Amen. Merci, Papa Célé. Je sais que nous allons revenir vraiment sur cette déclaration si directe. Nous allons abondamment y revenir parce que je ne voudrais pas, frères et sœurs, que ce soir, si quelqu'un d'entre nous rentre dans ce profil, il manque d'obtenir l'essentiel et que ce soir, s'il y a des morts au milieu de nous, ils reviennent à celui qui a l'esprit de vie pour leur donner la vie. Frère Gaston, vous avez la parole.
Merci, pasteur, pour la parole. Je suis aussi au verset 1. Je suis interpellé par ici l'amitié de Jésus-Christ. Je sais qu'il reviendra comme juge, mais je vois cet amour, cette amitié sincère que le Seigneur me dit, Gaston, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Il ne passe pas par quatre chemins. Un ami, ce n'est pas celui qui me flatte. C'est celui qui me dit ce que je suis, qui me connaît, il me dit la vérité, afin que je puisse prendre la bonne décision pour mon bien. Alors, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Même si les autres te disent, tu es vivant, tu es magnifique, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es correct. Mais moi qui vis avec toi, je te connais. Je sais que tes œuvres sont mortes. Voilà pourquoi David, dans Psaume 139, du 23 à 24, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et si je refuse, lorsque j'entends cet appel, de faire une introspection de ma marche, de ma vie, pas par rapport à ce que les gens disent, mais par rapport à ce que le Seigneur qui me connaît me dit, est-ce que je répands l'odeur de la vie ou l'odeur de la mort autour de moi, que je me repente? Et si je ne saisis pas cet amour, ça sera tard. Moi, si je suis venu à Christ, c'est parce que j'avais besoin d'un ami fidèle et tendre. Je suis venu à Jésus, au Seigneur, parce que j'ai découvert un jour que ce Jésus, c'était l'ami fidèle et tendre, et qu'il est l'ami fidèle et tendre. Et je l'ai invité dans ma vie parce que j'avais besoin d'un ami sincère qui pouvait me parler réellement et correctement. Et c'est pour cela que je suis venu au Seigneur. Et ce soir, il dit, je connais tes œuvres. Et ça m'a interpellé comment le Seigneur parle et il nous donne et me donne cette occasion pour prendre la meilleure des décisions. Amen.
Amen. Merci, frère. Je crois que si on a un doute quelque part à nous sur ce que nous sommes vraiment devant Dieu, le texte du psaume 139, verset 24, je pense, que le frère vient de nous réciter tout à l'heure, est un bel exemple de prière que nous pouvons faire devant le Seigneur. C'est vrai, il y a l'expression « je connais » tes actions, je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais. Lorsque le Seigneur le dit, c'est lui qui a le Saint-Esprit de Dieu. En fait, il voit toutes choses. Vous vous souvenez, nous avons, on verra peut-être au chapitre 5, au verset 6, que l'agneau de Dieu qui est immolé, il a sept yeux et sept cornes. En d'autres termes, il voit toutes choses, il connaît toutes choses. L'Esprit de Dieu sonde tout. Hier, le Seigneur nous a dit que, en parlant à l'église de Thyatire, il s'est présenté aussi comme celui qui sonde le cœur et les reins. Donc, il n'y a rien que nous ne pouvons, que nous pouvons cacher au Seigneur. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Il lit en nous, dans nos pensées, dans nos cœurs, comme dans un livre grandement ouvert. Donc, le Seigneur nous connaît, et cela, c'est une invitation, évidemment, à être sincère avec lui. Et la sincérité que le Seigneur demande, c'est le fait tout simplement de dire, Seigneur, le peu de choses que j'essaie de moi-même là, je vois que je suis un homme mauvais, je suis un pécheur. L'apôtre Pierre lui avait dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Si nous reconnaissons ce que nous sommes vraiment devant lui, le Seigneur nous dit, et c'est ça qu'il veut, que nous lui disions, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes, de nous racheter nous-mêmes, de nous transformer nous-mêmes, nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'aide. Et le Seigneur dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut être mort, même si les autres ne le voient pas, les humains ne le voient pas, quelque part, soi-même, on sait ce qu'on est. Quelque part, on peut réaliser qu'on n'a pas vraiment la vie de Dieu. Même si les autres disent autre chose de moi, il y a quelque chose en moi qui doit me dire. Tout ce que le Seigneur exige, ses propres voix, ce n'est pas vraiment ce que j'aime. Ce n'est pas vraiment ce que je suis en train de suivre. Donc, l'Église ou la personne à qui le Seigneur dirait cela ne sera pas nécessairement étonnée. S'il est ou elle est étonnée, ça veut dire qu'il y a soit une tromperie personnelle, parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas. Donc, on peut se tromper aussi. On peut prétendre être vivant alors qu'on est mort. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Comment est-ce qu'on peut en arriver à avoir connu la vie du Seigneur et aussi aujourd'hui être déclaré mort? Nous le verrons plus tard au verset 5, quand le Seigneur dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Pour effacer, il faut avoir écrit. Donc, c'est un nom qui a d'abord été inscrit et le Seigneur dit, si tu ne fais pas ce que je te dis aujourd'hui, j'effacerai ton nom de ton livre, de mon livre de vie. Papa Célé, ou Mme Christine, vous avez encore la parole.
Oui, merci encore pour la parole, Papa José. On avance au verset 2. J'ai lu ce verset dans la version Parole vivante. Il est dit, prends garde, réveille-toi, ranime et raffermis ce qui te reste et qui est aussi sur le point de mourir. J'ai trouvé qu'aucune de tes œuvres ne satisfait aux exigences de mon Dieu. Rien de ce que tu as fait n'est parfait à ses yeux. Rien ne pourra subsister devant lui. Quel avertissement, frères et sœurs. Quel avertissement dans le sens où on nous dit de nous réveiller. On ne peut se réveiller que quand on dort. Et on ne peut dormir que dans les œuvres mortes. On ne peut dormir que dans les choses, dans des futilités qui ne glorifient pas Dieu. Alors je me posais la question, en lisant ce verset, dans quel aspect de ma vie je suis vraiment endormi au lieu que je me réveille? Et le Seigneur me dit, réveille-toi et ranime, raffermis ce qui te reste encore. Donc il y a beaucoup d'aspects que je dois regarder en disant, il faut que je me réveille, il faut que j'affermisse, il faut que je grandisse, il faut que je devienne mature dans beaucoup d'aspects de la vie chrétienne. Amen.
Amen. Merci, Papa Célé. Dans cette église, il n'y a pas de Nicolaïte. Vous vous souvenez, on a vu, on a parlé de Nicolaïte, c'est-à-dire ceux qui qui demeurent dans les actes d'immoralité, d'impudicité, mais en même temps aussi des actes de corruption spirituelle et doctrinale aussi. Il n'y a pas de Nicolaïtes, il n'y a même pas de profils de Balaam qui ont poussé les filles de Moab à séduire les Israélites dans la plaine de Moab. Il n'y a même pas de Jézabel, comme nous avons vu hier, cette femme méchante qui a induit son mari dans l'idolâtrie et le peuple tout entier et dans les actes de méchanceté aussi. Mais dans cette église, même s'il n'y a pas de Nicolaïte ou de Balaam ou de Jézabel, comme on a vu à Thyatire hier, il y a pire encore. Parce que cette église, elle est déjà morte. Le Seigneur dit, tu es mort. À Thyatire, le Seigneur les a poussés à la repentance, évidemment comme étant un signe qu'il y a encore de la vie, il y a encore quelque chose. Mais dans ce cas ici, la situation s'aggrave. Thyatire et Sardes, ce sont des villes qui ne sont pas distantes. En tout cas, il y a à peu près une cinquantaine, 80 kilomètres peut-être qui séparent les deux villes. Et à Sardes, dont nous étudions le contenu de la lettre ici, si le Seigneur nous montre ce profil, moi je me dis, s'il n'y a pas de Nicolaïte, s'il n'y a pas de Balaam ou de Jézabel, mais qu'est-ce qu'il y a entraîner la mort de ce peuple. On peut dire effectivement que bon, il y a un certain engourdissement. Hein? Un engourdissement, c'est une torpeur. En d'autres termes, il y a un manque de vitalité. Le pasteur vient de nous parler au verset 2, on parle d'être vigilant. En d'autres termes, réveille-toi. Ce qui veut dire que c'est comme l'Église s'est endormie, l'Église est inconsciente des réalités spirituelles, des réalités divines. L'Église s'est endormie sur le matelas de la sécularité, de la profanité. L'Église s'est endormie sur le matelas du monde. Les choses de Dieu ne sont plus, ne font plus partie des réalités de son cœur. L'Église s'est éloignée petit à petit de Dieu. L'Église a enlevé Dieu de sa vie, de son programme, de ses planifications. Dieu n'y existe plus. L'Église est devenue laïque. Et je crois que c'est ce que le Seigneur est en train de nous faire voir ici. Et cela entraîne la mort parce que le Seigneur n'est plus le Seigneur de cet endroit. Je pense que nous continuerons dans cette direction-là. Je laisse d'abord la place à Tom.
À moi.
Oui.
Oui, je suis au verset 2 donc aussi. Parce qu'on dit que le monsieur doit être vigilant pour affermir les restes qui allaient mourir. Donc, au fait, c'est une mort graduelle. Et puis, il y a quand même un reste d'activité et de vie spirituelle, mais en voie d'aller mourir. Alors je me dis, peut-être qu'ici il s'agit aussi de ce péché dont on parle, que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Parce que le péché, ce n'est pas seulement faire le mal, mais ne pas faire le bien qu'on connaît qu'on devait faire, c'est péché. Faire de moins en moins ce qu'on faisait de bien, c'est aussi aller vers la mort. Mais aussi faire de moins en moins bien la qualité des services, c'est aussi commencer à venir en retard. Ça commence par 10 minutes, mais puis après c'est devenu seulement après le culte, avant le culte, avant ceci et tout ça. Après, on part un peu à l'étude biblique, on part un peu à la prière, mais pas toujours. On a des excuses. Petit à petit, on meurt. Parce que je trouve ici qu'il y a des choses, il y a un reste qui allait mourir, mais c'est possible de l'affermir. Qu'est-ce qui allait mourir en moi que Dieu trouve que c'est sauvable pour rentrer? Quel type de zèle j'avais autrefois? Peut-être dans le jeûne, peut-être dans la méditation au matin, la prière à 5 heures du matin, peut-être témoigner de Jésus-Christ à tout le monde que je rencontre. Qu'est-ce qui part vers la mort aussi dans ma vie que je peux affermir pour que je puisse être rentré à la vie? Merci.
Merci, frère. Je crois que dans ce genre de choses que le Seigneur nous présente, le minimum pour pouvoir venir à la vie, et on le voit même au verset 3, le Seigneur nous présente la voie vers le réveil, la voie vers la vitalité. On doit quitter l'engourdissement, on doit quitter le sécularisme, c'est-à-dire on est tellement imprégné du monde et de la manière de faire du monde que nous avons détrôné Dieu de sa place et Dieu n'existe plus. Il nous donne comment nous pouvons revenir à lui. Et c'est comme cela que s'il y avait des choses en nous qui sont en train de mourir, le retour vers Dieu va redonner vie à chaque aspect de notre vie. Si ce n'est pas juste la vie dans une assemblée, ça va être, en fait, peut-être aussi, on peut regarder au plan individuel les aspects de ma vie, comme le frère vient de le présenter ici. Le verset 3 va nous donner, je retiens ici, il peut y avoir beaucoup de choses, mais je retiens trois éléments clés qui nous permettront en tout cas de retourner à la vie. Qu'on reconnaisse que Christ est celui qui donne l'esprit de vie. En fait, c'est lui qui tient le Saint-Esprit de Dieu entre ses mains. Et qu'on fasse un retour à la parole, parce que c'est ce qu'il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Donc, il s'agit qu'on fasse un retour à la parole, et c'est ce que nous voulons faire soir après soir au FUMES, pourvu que nous soyons constants dans ce que on fait. Et puis ensuite, qu'on se répande en reconnaissant effectivement que oui, la léthargie nous a envahis et nous avons délaissé Dieu au profit d'autres choses, ce qui est en tout cas une forme d'idolâtrie. Papa Gaston, vous avez la parole.
Merci, Pasteur Joseph, pour la parole. Je suis au verset 3 et je suis dans la parole vivante. Rappelle-toi quel accueil empressé tu as fait à la prédication de la parole. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu pour l'observer et y conformer ta vie. Change. Je suis interpellé par ce passage parce que ça me touche puissamment. Le Seigneur m'interpelle. Quand je me suis dit je suis devenu chrétien, j'ai pris une décision. Et en prenant cette décision, je voulais montrer que je suis devenu chrétien. Quand il y avait récollection, veillée et prière spéciale, j'étais toujours là parce que je venais de découvrir l'amour de ma vie. À moins que maintenant, j'ai fait une fausse confession où je m'étais déguisé comme le diable se déguise en l'ange de lumière, pour tromper et pour me cacher et suivre un certain mouvement que je m'appelle chrétien. Mais si réellement j'ai pris la décision de suivre Jésus-Christ et que ce soir le Seigneur me dit, souviens-toi comment tu as reçu ma parole et tu as entendu parler de moi. Et sincèrement, du fond de mon cœur, je vois encore cette belle histoire. Même quand les gens veulent se séparer parfois, on met le mari de côté, la femme de l'autre, on dit, écrivez un peu les belles choses de votre vie. Ne fût-ce que pour rapprocher c'est l'un et l'autre. Et alors le Seigneur me dit, souviens-toi, pourquoi il a fait ce, c'est cet amour-là qui le pousse, qui me dit, lorsque je veux me souvenir de ce beau moment-là, je veux dire non, la voie que, dans laquelle je suis présentement, ce n'est pas la bonne, c'est la mort. Je dois revenir à la bonne voie qui est la vie dont le Seigneur me parle. Voilà pourquoi, si j'ai réellement donné ma vie, pas par hypocrisie, mais de tout mon être, je dois et je veux me repentir. Mais si c'était de l'aventure pour me cacher et pour tromper les autres, je vais demeurer dans la voie-là et m'endurcir dans le mal sans me repentir jusqu'à ce que le Seigneur devienne juge dans ma vie. Amen.
Amen. Merci, frère. Papa Célé ou Maxime, vous avez encore la parole.
Oui, merci encore pour la parole, Papa José. J'avance au verset 4. Au verset 4, il reconnaît celui qui a le 7, qui possède l'Esprit de Dieu en plénitude, dit, je reconnais que tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles m'accompagneront vêtues de blanc et vivront avec moi, car elles en sont dignes. Ça, c'est une grande interpellation pour dire, quand le Seigneur regarde la foule, il connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il connaît ceux qui marchent dans l'intégrité, il connaît ceux qui ne marchent pas dans l'intégrité, mais qui sont toujours dans la foule. Il connaît ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Alors, mon interpellation était, si jamais le Seigneur regardait aujourd'hui le FIMES, le Seigneur regardait aujourd'hui notre Église, de quel côté est-ce qu'il peut me mettre? Du côté de ceux qui marchent vraiment dans l'intégrité, ou du côté de ceux qui ont relâché et qui marchent en dehors de ce qu'ils ne veulent pas. Mmh. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Célé. Il y a effectivement le verset 4 qui se pointe comme une lumière au milieu des ténèbres. Le Seigneur dit et voit que au sein de cette église morte, il y a quelques personnes qui marchent encore droit et qui aiment encore le Seigneur. Ça m'apprend aussi que je dois me garder des généralités au sujet des assemblées, des communautés, parce que ces textes me montrent combien le Seigneur est tellement puissant pour se garder un peuple, même là où la mort a sévi. Je ne généralise pas toujours en pointant du doigt aux gens parce que ça me montre simplement qu'au sein de toutes les assemblées, le Seigneur peut se garder un peuple qui lui appartient vraiment. Tout à l'heure, Papa Thomas a parlé de quelques éléments fondamentaux et Papa Gaston en a appuyé un peu. Je voudrais tout simplement nous rappeler, frères et sœurs, lorsque on n'aime plus la prière, lorsque la parole du Seigneur nous ennuie, lorsque j'ai honte de parler de Jésus-Christ, lorsque je trouve des excuses pour aller communier avec des frères et des sœurs, ces quatre éléments sont fondamentaux pour un réveil spirituel dans la vie. Donc, le retour à la parole de Dieu, l'amour de la prière, la communion avec Dieu, donc la prière, la communion avec les frères et les sœurs, et le témoignage que je dois rendre, je dois parler de Jésus-Christ, si ces éléments ne font plus partie de ma vie, il y a un danger. Donc ce soir, le Seigneur nous le rappelle encore. Souvenons-nous comment nous avons reçu, comment nous avons entendu, et que nous gardions cela, que nous revenions à ces éléments vitaux qui font qu'une communauté ou une vie de quelqu'un peut être une vie qui honore et qui plaît au Seigneur. Maintenant, vous avez encore la parole.
Oui, bien aimé, je suis au verset 4 et 5. L'orateur écrit ici que le Seigneur qui est en train de nous parler, il dit que quand on n'est pas souillé, on aura des vêtements blancs. Ils vont marcher avec le Seigneur en vêtements blancs. Et au verset 5, les vainqueurs vont aussi porter des vêtements blancs. La blancheur des vêtements, c'est la sanctification, c'est la séparation d'avec la saleté, d'avec le péché. C'est important finalement que nous nous souvenons que la Bible dit « Seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. » Et que il faut rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Comme nous voulons voir Dieu, comme nous voulons marcher dans des vêtements blancs, ça va être important que nous puissions enlever la saleté du péché, nous dépouiller du péché et nous revêtir du vêtement blanc. C'est un vêtement, le vêtement, on le porte. Le vêtement, on le porte, on se vêt, on se le couvre. Nous devons choisir de prendre la sanctification. La Bible dit, soyez saints comme moi qui vous ai appelé, je suis saint. 1 Pierre 1, 15 à 16. Donc, ça va être important que, de manière délibérée, je puisse choisir de marcher dans la sanctification, parce que sinon, je ne vois pas Dieu. Et celui qui marche là, ici, on dit qu'il va les revêtir, il va les confesser devant Dieu, donc, devant le Père, donc il voit le Père. Recherchons la sanctification, aimons la sanctification, fouillons les péchés avec la puissance que Dieu nous donne, parce que c'est l'uniforme pour être devant Dieu. Merci.
Merci, Papa Thomas. Il est vrai, le verset 4, le verset 5 nous disent cela. Y a-t-il en ce moment, mon frère, ma sœur, une tache sur ta robe quelque part? Si c'est le cas, plus loin, nous verrons, je pense au chapitre 7, lorsque Jean verra une grande multitude des hommes de tout peuple, de toute langue, qui se tiennent avec des palmes dans leurs mains. L'un des vieillards lui posera la question, « Ceux-là, d'où viennent-ils ?» Et Jean va dire, « Je ne le sais pas. » Et le vieillard va répondre, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » Et il va dire, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, ils les ont blanchis ainsi dans le sang de l'agneau, et c'est pour cela qu'ils se tiennent devant le Seigneur. Y a-t-il une tache? Avons-nous souillé notre robe blanche? Si elle est sale, allons au Seigneur. Il n'y a pas d'autre blanchisserie qui puisse nous purifier, qui puisse nous rendre nos robes si blanches, si resplendissantes que le sang de l'agneau. Alors retournons vraiment au Seigneur, parce que selon les termes du verset 4, le Seigneur désire, le Seigneur veut que nous gardions nos vêtements blancs, que nous gardions nos robes sans tache, sans souillure. Dans ma version, on parle de souillure. La version de tout à l'heure, on a dit, ils n'ont pas sali leur robe. Donc, s'il y a une tache, une saleté quelque part, retournons au Seigneur. afin qu'il nous lave dans son sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le sang qui a été versé pour nous et pour la multitude en rémission de péchés. Et consacrons-nous à Dieu afin que nous marchions avec constance dans la pureté, la droiture et l'intégrité. Le verset 5, toujours dans le même sens que ce que Papa Thomas venait de dire tout à l'heure, c'est au fait une promesse que le Seigneur va faire. Il va dire à l'Église qui est déjà morte, à l'Église qu'il conseille de se réveiller et de faire le nécessaire. Et le nécessaire ici, c'est le retour à la parole, le retour à la communion avec lui, donc le retour à la prière. C'est aussi la vigilance, effectivement, par une vraie communion avec ceux qui ont la vie. Parce que des morts vivants qui côtoient des morts vivants ne se donnent pas la vie. Ainsi, si nous faisons cela, le Seigneur dit, c'est comme cela que nous pouvons expérimenter la victoire. Parce qu'il dit, c'est lui qui vaincra. Ainsi, il sera vêtu de vêtements blancs. Et le Seigneur promet, je n'effacerai pas son nom du livre des vies. Frères et sœurs, il faut que nous fassions attention. Moi, je voudrais, comme pasteur, ne pas toujours dire aux gens qu'ils sont fils de Dieu. Qu'ils sont toujours fils de Dieu. Peut-être beaucoup, après avoir entendu cela plusieurs fois, ils ont fini par se convaincre qu'ils sont enfants de Dieu, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Nous devrions faire comme Paul qui disait à l'assemblée qu'il a lui-même établie aux Corinthiens, il leur dit, examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la foi. Donc, je sais que nous avons des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur et qui marchent avec lui. C'est l'Esprit lui-même qui convainc notre esprit, qui dit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est lui qui connaît le cœur, c'est lui qui sonde le cœur, celui-là nous connaît, c'est celui qui peut attester cela. Lorsque chacun de nous s'examine et se voit devant le Seigneur dans quel état il est, il a l'intime conviction qu'il appartient au Seigneur ou pas. Mais lorsque nous disons à tour de bras aux gens qui sont avec nous qu'ils sont nécessairement fils de Dieu, ça peut être vrai pour une partie, mais ça peut ne pas être vrai pour une autre partie. Alors, exhortons-nous de manière à ce que chacun s'examine et se retrouve devant le Seigneur. Et c'est lui seul, lui seul. Et il dit ici même au verset 5 que si nous sommes vainqueurs, étant revêtus de vêtements blancs, alors le Seigneur dit, je n'effacerai point son nom. Donc, le nom de ces gens-là, je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Et pour effacer un nom, il faut qu'il ait été écrit d'abord. Et le Seigneur a l'autorité, le pouvoir de pouvoir le faire. Parce que c'est lui-même qui le dit ici. Gardons-nous en tout cas de la souillure, gardons-nous de la torpeur, gardons-nous de l'engourdissement, gardons-nous de la mondanité, parce qu'elle nous éloigne, ils vont nous éloigner petit à petit du Seigneur, et ça, c'est la mort certaine. La dernière intervention sera celle de Papa Célé ou Maman Christine.
Oui, merci encore pour la parole, Papa José. Le tout dernier verset parle de l'écoute. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ou bien que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, la preuve de l'écoute, c'est l'obéissance. La preuve de l'écoute, c'est la mise en pratique. On peut être plus dans l'assemblée, on prêche la parole. La preuve que j'ai écoutée, c'est quand je vais mettre en pratique ce que j'ai écouté. Donc, pour dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous pouvons beaucoup connaître, mais c'est qu'est-ce que je pratique, qu'est-ce que je vis. C'est ce que je vis qui montre réellement ce que le Seigneur me dit de faire chaque jour. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Célé. Frères et sœurs, que des choses poignantes, en tout cas, qui nous ont été partagées ce soir. Je voudrais juste nous rappeler quelques avertissements qui y ont retenu mon attention dans ces textes, mais aussi nous rappeler quelques promesses aussi que le Seigneur fait. Les avertissements, ce sera pour nous réveiller, et les promesses, ce sera pour nous encourager à continuer la marche. En guise de conclusion, quelques avertissements ici. Le Seigneur dit que nous devons nous réveiller parce que son retour ou son arrivée va être, comme il l'a dit ailleurs, va être au moment où nous y attendons le moins. Qu'on se réveille, qu'on soit toujours prêt, qu'il vienne de nuit ou de jour, qu'il nous trouve vraiment prêt. Parce que si ce n'est pas le cas, alors il y a des choses désagréables qui peuvent se présenter. On va dire que il y a même un risque que nous perdions notre citoyenneté céleste. Parce que si on n'est plus inscrit dans les livres des vies, évidemment, on n'est plus concitoyen des saints. On n'est plus citoyen céleste. Le Seigneur nous dit plutôt que si nous sommes au contraire réveillés, si nous retournons à lui, si nous faisons un retour sincère à la parole par une repentance sincère, le Seigneur promet que nous marcherons avec lui, nous l'aurons pour compagnon, mais un compagnon éternel. Nous serons toujours sans tâche dans la gloire, parce qu'il parle ici de vêtements blancs, purs. Et le Seigneur nous dit que si nous le faisons, nous sommes encouragés que jamais, jamais plus, jamais en tout cas, nous perdrons notre citoyenneté céleste. Et un des encouragements que je trouve encore dans ce texte, et un encouragement que je voudrais que nous gardions avec nous, c'est cette déclaration publique que le Seigneur voudrait faire pour chacun de nous. Publiquement, il va nous reconnaître devant le Père et devant ses anges que nous lui appartenons. Frères et sœurs, en vue de cette déclaration publique dans les cieux, que nous soyons motivés en tout cas pour nous garder purs, nous garder dans la propriété spirituelle, raison pour laquelle s'il y a quelque chose que nous pensons que ça peut nous avoir sali ou c'est en train de nous salir, allons vite à la blanchisserie du Seigneur afin que son sang nous lave, nous purifie et qu'il nous remette encore dans ses milices avec un cœur plus rayonnant encore de vivacité et de fidélité à son nom. Voilà, frères et sœurs, pour ce soir. Pour demain, nous continuons dans le même chapitre, hein, Apocalypse chapitre 3. Nous lirons du verset 7 au verset 13. Ce sera la lettre à l'église de Philadelphie. Papa Célé, est-ce que nous avons des annonces? Je vois que nous avons un anniversaire pour le frère Jean-Baptiste. C'est aujourd'hui, je pense. Bon anniversaire, frère Jean-Baptiste. Je pense que je l'ai mis à mute.
Allô?
Oui, frère. On voulait vous souhaiter un bon anniversaire.
Oh, merci beaucoup. C'est aussi une occasion pour moi de rendre grâce au Seigneur pour un an de plus qui vient de m'ajouter. Merci beaucoup.
Merci. Puisse le Seigneur vous garder. On sait que quand on fête un anniversaire, c'est une année de plus qui s'ouvre devant nous et que les 365 jours qui viennent soient des jours de consécration et d'abandon total au Seigneur pour sa gloire.
Merci beaucoup, Pasteur. Amen.
Oui. Papa Céleste, nous avons des annonces.
Merci, papa. J'osais juste saluer les frères et sœurs qui sont nombreux en train de méditer avec nous depuis Massachusetts, Missouri, et puis au Canada, depuis Québec, Alberta. Nous bénissons le Seigneur pour ces frères et sœurs. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Je demanderai au frère Gaston de lever la voix et de prier. Et lorsque nous aurons fini, évidemment, nous chanterons bon anniversaire au frère Jean-Baptiste.
Frère Garçon, allez chercher sa tête et il va revenir dans 10 minutes.
Ah, ok. Merci. Papa Thomas, est-ce que vous êtes prêt? Vous pouvez prier?
Oui, nous pouvons prier. Tendre Père, merci pour les enseignements sur cette église. Une église où il y a des tambours, une église où il y a des chants, une église, on pensait elle est vivante, mais elle est morte. Elle est morte, Seigneur, parce que le zèle, le premier zèle est éteint, le feu est éteint. C'est la chronique, c'est la routine, mais il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Et c'est lui qui tient les chandeliers du Saint-Esprit, dit aux églises que cette église-là de service est morte. Mais nous constatons, Seigneur, qu'il y a quand même des choses qui sont en train de partir vers s'éteindre. Et tu veux que l'Église se réveille pour sauver cela. Ô tendre Père, pardonne-nous et réveille-nous. Aide-nous à ne pas tout perdre. Nous voulons, Seigneur, ce qui reste, ce qui est sauvable, à être sauvé. Nous voulons nous souvenir de là, quand nous avons reçu cette parole, quand nous avons reçu ce salut. Quelques-uns d'entre nous, il y a 40 ans, d'autres 5 ans, d'autres 30 ans, d'autres il y a 20 ans, d'autres il y a 10 ans, d'autres il y a 5 ans, d'autres il y a quelques années, d'autres il y a quelques mois. Mais nous tous, nous sommes nés de nouveau et il y avait un temps où ce feu brûlait à nous, ô Dieu. Nous voulons nous souvenir de ce temps et nous voulons reprendre, Seigneur, du zèle dans la prière, dans la méditation de ta parole, dans l'obéissance à ta parole, dans le servir, dans la soumission, dans la grâce, dans le donner, dans la joie de te servir. Ô tendre Père, merci que tu ne comptes pas que tout le monde fait le mal. Tu connais celui qui tient debout et qui persévère. Celui-là, tu dis, tu vas lui donner des vêtements, mais pas bleu, pas vert, pas rouge, pas jaune, mais blanc, tout blanc. Seigneur, nous voulons être de ceux-là que tu veux présenter au Père pour dire, c'est celui-ci, José, dont je te parle, c'est celui-ci, c'est celui-ci, Jean-Baptiste, c'est celui-ci, Thomas, c'est celle-ci dont je te parle, tendre Père. Nous voulons ce témoignage, Seigneur, devant le monde entier, devant les anges, devant le Père, que
Amen.
le Seigneur nous a connus et nous a sauvés. Nous ne voulons pas, Seigneur, être de ceux de qui tu dois enlever de la gloire, mais au contraire l'amener. Bénis-nous. Merci pour ton serviteur qui nous a dirigés. Il nous a imploré que s'il y a des taches dans nos vêtements blancs, que nous nous répartissons. Il a montré, Seigneur, que c'est possible de marcher dans la bénédiction, dans la gloire, et tu nous as donné même une formule de revenir pour nous réveiller, afin que nous soyons des gens complètement réveillés, renouvelés et réchauffés. Amène le réveil, Seigneur. Amène le réveil. Tu nous as donné une formule. Nous devons être conscients. Nous devons, Seigneur, nous souvenir. Nous devons écouter encore cette parole et nous devons l'appliquer, la garder, l'appliquer, nous repentir et reprendre du zèle. Tendre Père, aide-nous de garder nos vêtements blancs. Aide-nous à marcher dans la sanctification. Et tu nous as dit que ceux qui ont des oreilles, ils peuvent entendre. Donne-nous des oreilles qui entendent et qui obéissent. Tendre Père, bénis ton serviteur qui nous a enseigné. Seigneur Dieu, que tu le soutiennes, que tu l'aides à marcher jusqu'au bout. Il y a longtemps qu'il est dans la foi. Continue à le bénir, l'Église, le travail, sa vie, Seigneur, communautaire, sa vie dans la famille, visite-le, bénis-le d'une manière particulière. Merci pour le frère Jean-Baptiste, Seigneur Dieu, à qui tu as ajouté un an de plus. Tendre Père, que cette nouvelle année, Seigneur Dieu, soit une année d'action de grâce dans sa vie. Que des choses qu'il a toujours cherchées, Seigneur, qu'il les trouve durant cette année. Que tu le bénis, Seigneur, le délivre du manque, le délivre, Seigneur, de tout problème, Seigneur Dieu, et que tu le combles de ta présence parce qu'il te craint. Tendre Père, nous, au FIMES, nous, dans cette étude, Seigneur, nous voulons persévérer et nous voulons jusqu'au bout prendre, Seigneur Dieu, cette gloire que tu as réservée pour ceux qui t'auront cru, pour ceux qui se seront attachés à toi. Bénis-nous, soutiens-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Amen. Amen.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Encore une fois, frère, joyeux anniversaire. Que le Seigneur te garde et te fasse du bien. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.
Amen, pasteur. Merci.